Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La répression de la faute de gestion et ses conséquences juridiques. Qu'est-ce qu'une faute de gestion? Comment l'éviter? Quelles en sont les conséquences? C'est la problématique qu'aborde le magazine de promotion de vos droits et devoirs. La manipulation des fonds publics impose une certaine discipline aux responsables du service public ayant le statut d'assiette. Le magistrat Guy Chipata, président de la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, explique la faute de gestion conformément à la loi. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Excellente écoute à tous. Chipata, vous êtes président de la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'une faute de gestion?
Bon, sans entrer dans la doctrine, la faute de gestion, c'est tout manquement aux règles de la bonne gestion des finances et des biens publics, de manière ramassée. C'est ça la faute de gestion.
Maintenant, ici, la Cour des comptes décide par arrêt, elle va rendre un arrêt.
Vous devez savoir, la Cour des comptes exerce deux types de contrôles. Il y a les contrôles extra-juridictionnels. Ça concerne les audits, comme on dit, okay? Contrôle budgétaire, contrôle de gestion. Quand ça concerne le contrôle budgétaire, contrôle de gestion. Et il y a un autre type de contrôle, c'est celui qu'on a exercé aujourd'hui, le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel, nous avons le jugement des comptes. C'est-à-dire, il est fait obligation comptable de déposer au plus tard le 31 mars, les comptes de gestion. Il s'agit des comptables chargés de recouvrir les recettes, comptables de recettes, comme assignataires de dépenses. Donc, au plus tard le 31 mars, ils doivent déposer leur compte de gestion parce qu'ils manipulent les fonds publics.
S'ils déposent avec un léger retard d'une semaine, de deux jours,
non,
ça devient une faute?
Non, mais la loi est stricte. Il ne revient pas au magistrat de la Cour des comptes d'apprécier. La loi est stricte, donc on doit respecter la loi.
Est-ce que la Cour des comptes a pris le temps de sensibiliser les agents publics, notamment les comptables, sur le fait que lorsqu'ils transmettent les comptabilités mensuelles en retard, ils commettent une faute de gestion?
Oui. Vous savez que nous avons la nouvelle loi qui a été votée et promulguée par le chef de l'État, je crois, en 2018, avec de nouvelles obligations à l'égard des gestionnaires comme des comptables. On s'était dit, avant de sanctionner, il fallait d'abord commencer par sensibilisation et quoi? Sensibiliser les différents acteurs qui interviennent dans la finance publique. C'est comme ça qu'on a eu des séances de sensibilisation, d'abord avec la société civile, avec les comptables, et dernièrement nous avons eu une séance de sensibilisation avec tous les responsables des entreprises du portefeuille comme des établissements publics.
Et dans le cas d'espèce, les comptabilités mensuelles vous ont été déposées avec quel type de retard? Retard de combien de mois ou de semaines?
Je crois que vous venez de suivre l'audience. Il y a de ces comptabilités, ça concerne trois exercices, donc 2020, 2021 et 2022. Vous avez constaté, lorsque les magistrats rapporteurs portaient les faits à l'égard du mise en cause, le retard observé était parfois de 3 mois, alors qu'à la fin de chaque trimestre, les faits obligations comptables de déposer ses comptabilités accompagnées des pièces justificatives. Donc c'est ça même le sens de la rédévabilité. Le chef de l'État a voulu, le chef de l'État réhabiliter la Cour des comptes pour pouvoir mettre fin à cette gestion calamiteuse. Vous devez savoir que lorsque on vous donne une charge publique, vous devez rendre compte de votre gestion. Vous devez rendre compte. Comment on rend compte? Il y a les supports sur lesquels il est fait obligation aux gestionnaires comme aux comptables de rendre compte à la population à travers, effectivement, la Cour des comptes qui est un organe technique. Donc c'est de cette manière.
Maintenant, revenons-en aux peines prononcées par la Cour des comptes. Vous n'êtes pas une juridiction pénale. Vous allez prononcer quel type de sanction?
Ok. Vous savez que la peine pécuniaire dépasse même la servitude pénale. Concernant la faute de gestion, la peine qui est prévue, c'est on ne dépasse pas les doubles du traitement brut du mis en cause. Vous imaginez si vous touchez 1 000 $ par exemple, 1 000 $ le mois, le salaire brut, le traitement brut. La loi nous dit de ne pas dépasser les doubles, c'est-à-dire c'est 24. Si on prononce avec circonstances aggravantes, c'est le maximum 24 000 $ que vous devez payer. Pour une seule faute, pour une seule faute, allez-y comprendre quelque chose. Ça, donc c'est tout gravité. Votre patrimoine qui est ruiné.
Alors sans
gravité. Et chez nous, l'appel n'est pas suspensif de l'exécution de l'arrêt. Dès que l'arrêt est prononcé, on exécute. Et la peine est exécutée sur votre patrimoine. Ça affecte votre patrimoine. Et si vous arrivez de mourir, c'est vos successeurs qui vont payer ça. Et l'amende, il jouit de ce qu'on appelle le privilège du trésor. C'est-à-dire, si on réalise votre patrimoine, votre maison, donc, de prime abord, on prélève l'amende avant de payer les autres créanciers, débiteurs.
Donc, à part la privation du salaire brut, il n'y a pas une autre amende que vous pouvez prendre.
Non, non, nous, c'est l'amende. Mais néanmoins, la loi a prévu aussi des mesures conservatoires. C'est-à-dire, lors de l'instruction, lorsque les magistrats rapporteurs trouvent qu'il y a des irrégularités graves qui peuvent affecter même sérieusement le patrimoine de l'entité, donc on peut suspendre les responsables, on peut le proposer à la révocation, on peut bloquer ses comptes, lui interdire même de quitter le territoire. Là, ce sont des mesures conservatoires. Donc tout ça, c'est pour préserver les intérêts de l'État.
Avec Iyombo, s'il advenait que la Cour prononçait la confiscation de son salaire brut de 24 mois, il va continuer son travail sans être payé, c'est ça?
Vous savez que le salaire a un caractère alimentaire, on ne peut pas tout prendre. Voilà, il y a une quotité, mais néanmoins, il finira toujours par tout payer. Ça peut prendre le mois que ça peut prendre, mais il finira par tout payer.
Qui sont justiciables de la Cour des comptes?
Oui, sont justiciables, là c'est l'article 32 qui énumère de manière limitative les justiciables de la Cour des comptes. Vous avez tous les responsables des entreprises du portefeuille, des établissements publics. Donc tout agent public, hein, de manière ramassée, tout agent public est justiciable de la Cour des comptes.
Et l'ordonnateur des finances?
Tout agent public.
Le ministre des finances aussi?
Exceptionnellement, les responsables des institutions politiques et sont responsables devant l'Assemblée nationale. Oui. Ils répondent de leur faute de gestion devant l'Assemblée nationale.
Merci Guy Chipata.
Oui, oui. Merci beaucoup.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
La répression de la faute de gestion et ses conséquences juridiques. Jimmy Munganga, premier président de la Cour des comptes, promet d'organiser d'autres procès comme celui en cours contre les auteurs de faute de gestion découverts lors de l'audit fait par la Cour l'année dernière au niveau des cours et tribunaux, des services du ministère de la Justice et de la Police nationale. Audit sanctionné par un rapport qui constate la faible mobilisation des recettes judiciaires dans 43 entités auditées.
L'enregistrement en comptabilité du montant de $10 américains pour l'obtention de l'extrait du casier judiciaire alors que les requérants payent $30 américains ou plus entre les mains des préposés de cette entité. Le paiement de la prime de rétrocession dans les comptes bancaires individuels d'une vingtaine de cadres et agents en lieu et place de la coordination nationale de la police judiciaire. Une mauvaise gestion des biens saisis et confisqués par la Commission nationale de gestion des biens saisis et confisqués, COGEBISCO en sigle, qui présente un rapport non exhaustif de l'inventaire des 10 biens. La part des recettes revenant au trésor public sur les ventes réalisées et les loyers perçus n'est pas régulièrement versée. D'ailleurs, cet effet, un audit spécifique vient d'être lancé sur cette entité. D'importantes discordances sont relevées entre les recettes ordonnancées et celles recouvrées à la direction des cultes et associations ainsi qu'à la commission de censure des chansons et spectacles. Au niveau de la police nationale congolaise. 1. Application systématique par les officiers de police judiciaire du taux minimum de $20 américains par rapport au plafond de $2000 américains fixé dans l'annexe des arrêtés interministériels numéro 001/CAB/MINE/INTERSECDAC/2012 et numéro CAB/MINE/FINANCE/2012/535 du 22 août 2012 portant fixation des taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale congolaise sans tenir compte de la gravité des faits et du rang social de l'auteur présumé de l'infraction. 2. La consommation à la source d'une importante partie des recettes réalisées au motif que le gouvernement ne verse pas les frais de fonctionnement. 3. Le versement par M. Mania Vita Emmanuel, comptable public subordonné au commissariat urbain du district de Lukunga, des recettes réalisées dans un compte bancaire ouvert en son nom à la TMB. Recommandation. Devant cette situation déplorable, la Cour des comptes formule les principales recommandations ci-après. 1. La tenue d'une rencontre au sommet entre le président du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre en charge de la justice, le ministre des Finances, le commissaire général de la police nationale congolaise et le premier président de la Cour des comptes en vue de mettre en place des dispositifs efficaces garantissant une mobilisation accrue des recettes et un cadre de concertation. 2. La révision à la hausse des minima et des maxima de fourchettes de taux des amendes transactionnelles et des frais contenus dans les arrêtés interministériels. 3. L'affichage public des taux d'actes générateurs au niveau de tous les services d'assiette. 4. L'organisation des campagnes et ateliers de sensibilisation du public et des agents commis aux services d'assiette sur les modalités de paiement des droits et taxes dus au Trésor. 5. La suppression de la fonction des greffiers comptables. 6. La motivation du personnel des services d'assiette par le paiement de la prime de rétrocession aux services et non aux individus. Suite réservée. Des constatations faites par la Cour des comptes au cours de l'audit des recettes judiciaires. Il résulte des suites ci-après. 1. La poursuite devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières de tous les auteurs de fautes de gestion relevées. En attendant, le premier président de la Cour des comptes adressera de référés aux autorités hiérarchiques des personnes mises en cause afin d'obtenir d'elles des sanctions disciplinaires conséquentes. 2. La transmission aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire des dossiers des infractions pénales relevées, notamment les cas de détournement des deniers publics et de faux et usage de faux. 3. Enfin, le lancement d'une mission d'audit sur les recettes judiciaires en province.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droits
et citoyenneté.
Place à présent à la réaction d'un défenseur des droits des consommateurs, l'avocat Chief Chipamba. Analyse la répression de la faute de gestion en droit congolais et salue ici le travail de la Cour des comptes qui est à ses premières audiences publiques contre cette infraction.
Monsieur le journaliste, conformément à l'article 3 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018, effectivement, la Cour de comptes Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens en République démocratique du Congo, donc notre pays. C'est une juridiction financière dotée d'un parquet, dotée d'un siège, dotée d'un greffe. Donc c'est à bon droit que la chambre de discipline, la cour, a jugé les comptables publics. Et c'est vraiment à féliciter parce que cela prouve que la cour de compte est sortie de son hibernation. Ok. Donc on pensait que les autres dispositions de la loi qui organisait cette juridiction n'étaient que des mots dans un livre. Mais maintenant là, on commence à se rendre compte qu'ils sont réveillés. C'est quelque chose à encourager. Donc voilà quoi. Et par rapport aux institutions de contrôle financier, la cour de compte a une prépondérance sur les autres institutions. Donc c'est un coup de chapeau et qui ne se limite pas à ce niveau-là. Ok. Pourquoi le comptable public a cette question? Je vous renvoie à l'article 32 de la loi que je viens de citer tantôt, ok, qui nous détermine comment, qui sont les justiciables. Voilà pourquoi on les a jugés ainsi. Ok, la faute de gestion elle-même est définie par l'article 129 de la loi sous examen, de la loi qui organise la Cour de compte. Donc, nous félicitons, nous encourageons, nous espérons que la corruption ne va pas les toucher. Nous espérons que le chef de l'État ne va pas se plaindre par rapport à la qualité des décisions qu'ils vont prendre. On espère que les décisions qui seront rendues permettront aux comptables publics, ok, d'agir conformément aux règlements et lois qui organisent leur profession. Nous saluons.
Peut-on parler de certaines insuffisances de la loi lorsque les ministres ne sont pas justiciables de la Cour des comptes?
La loi sur la Cour des comptes insuffisante, je doute fort. Les ministres ne sont pas justiciables, ça dérange un peu. Bon, ce sont autant de questions qui doivent appeler réflexion. Mais la ratio legis, sinon, l'esprit de cette loi-là, c'est par rapport à la discipline auprès des agents de carrière de service public de l'État, communément appelés fonctionnaires, ok, appelés à gérer le finance. Donc c'est dans cette optique-là. Mais qu'on prenne le ministre comme justiciable de la Cour de compte, ça pose problème. Et ça pose problème. Ça pose un peu problème. Parce qu'ils sont membres de l'exécutif. Ok? Ils sont membres de l'exécutif. Et c'est un autre pouvoir. Et le régime des ministres est déterminé par d'autres lois. N'est-ce pas? Mais au regard de réformes de finances publiques, hein, et le ministre attend que l'ordonnateur principal des dépenses, et le ministre ordonne les dépenses après que les fonctionnaires ont travaillé, on pouvait bien, mais ça dérange un peu, voilà quoi, ça dérange un peu. Le ministre, par rapport à la faute de gestion, il a ses juges, ok? Il y a le juge de la cour de cassation, je crois, ou la cour de compte, la cour constitutionnelle, sont là pour gérer toutes les fautes liées commises par le ministre pendant l'exercice de leurs fonctions. Je ne pense pas que la loi soit insuffisante à cause de cet élément. C'est la discipline infligée jusqu'au double de la sanction. C'est la discipline. Et là, vous relevez le caractère dissuasif de la sanction. Ok? La gestion de l'argent de l'État, c'est la gestion de l'argent de tout le monde. L'argent de l'État, c'est l'argent que l'État détient du fait des contributions de chaque citoyen du pays. Donc tout celui qui gère cet argent-là doit réfléchir par deux fois chaque fois qu'il doit engager une dépense.
La répression de la faute de gestion et ses conséquences juridiques. Nous venons de vous en parler avec les responsables de la Cour des comptes et le défenseur des droits des consommateurs. Droit et citoyenneté est donc maintenant terminé. Merci de votre écoute et de rester toujours branché sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.